Bonjour et bienvenue sur Choc FM. Aujourd'hui, je suis avec Muguette Myers. Muguette, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié vos mémoires de jeunesse avec la Fondation Azrieli. Qu'est-ce qui vous a décidé à publier vos mémoires?
Eh bien, j'ai commencé à écrire, d'abord pour moi-même. Et puis ensuite, je me suis dit, je les écris pour que les enfants surtout, puissent connaître ce qui s'est passé. Et c'est ça qui m'a motivé beaucoup. Enseigner, apprendre, c'est-à-dire que les enfants, que les personnes apprennent ce qui s'est passé. Même si c'était pas dans le contexte, même si j'ai jamais été dans un camp de concentration, mais quand même, c'était une enfance qui n'était pas libre.
Pourquoi vous avez décidé de les écrire maintenant? Vous auriez pu les écrire plus tôt dans votre vie. Pourquoi maintenant?
Ben, c'est pas maintenant. Moi, j'avais soumis ça il y a 10 ans.
D'accord.
Ça a pris à peu près 10 ans. Pour la fondation, que la fondation puisse publier. D'abord en anglais, parce que mes enfants sont anglophones, et après, traduit en français.
Donc ça a été traduit en français cette année, ça a été publié cette année en 2016, en français.
Oui, en français, oui. En anglais, c'était en 2015.
D'accord. Okay. Est-ce que vous pourriez me raconter votre enfance avant la guerre?
Ben, avant la guerre, je m'en rendais pas tellement compte. Hein. Tout ce que je sais, c'est que il y avait maman, il y avait mon frère, et puis on vivait comme tout le monde, hein, comme on vit maintenant au Canada avant la guerre. J'ai vraiment pas d'expérience extraordinaire pendant que j'étais gamine.
Et votre papa est décédé très jeune.
Oui.
Est-ce que vous pourriez me parler de ce que vous avez vécu avec votre maman?
Oui, d'abord, mon père est mort, il avait 35 ans. Moi, j'avais 3 ans et demi, mais je me rappelle très bien de mon père.
C'est impressionnant, je trouve.
Oui, je me rappelle, il cousait à la machine, il était tailleur, et je m'asseyais sur ses genoux, et puis, pendant qu'il cousait, je me rappelle très bien.
Et pouvez-vous me raconter votre enfance pendant la guerre, pendant cette période?
Oui, alors, voulez-vous savoir comment je suis arrivée à...
Alors, comment vous êtes arrivée, par exemple, je sais que vous avez quitté Paris avec votre maman, votre frère, pour aller dans un petit village qui s'appelle Chamberlot.
Et alors, nous sommes arrivés... C'était le 15 juillet 1942, la veille de la grande rafle. Nous étions à la maison, il devait être 9h du soir, et il y avait une amie à maman qui était là aussi, qui était venue nous visiter, une amie chrétienne, Madame Dumas. Et alors, tout d'un coup, on frappe à la porte, et il y a une de mes tantes qui rentre en coup de vent. Elle était blonde, aux yeux bleus, très grande, elle avait le type arien. Elle avait tout à fait le type arien. Et elle était secrétaire à la commandanture, qui est le chef-lieu, si vous voulez, des Allemands. Alors, comme elle était secrétaire, elle apprenait des choses. Alors, elle est venue nous dire que demain, donc le 16 juillet, il va y avoir une grande rafle et qu'on va emmener les femmes et les enfants. Alors, l'amie Madame Dumas a demandé à maman, elle dit, alors Bella, qu'est-ce que tu vas faire? Maman dit, j'ai nulle part où aller, je prendrai Muguette, j'irai avec eux. Et moi, sans savoir pourquoi, j'ai fait une crise de nerfs, je me suis roulée par terre. Je ne veux pas aller avec toi, je ne veux pas t'y aller toute seule, je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, Madame Dumas a dit, ben, venez donc dormir chez moi cette nuit. Et alors, maman et Madame Dumas, avec des ciseaux, ont décousu les étoiles, parce qu'on portait l'étoile. Et nous sommes partis, assis dans le métro. Vous connaissez le métro parisien?
Oui, je connais le métro parisien.
Oui, d'accord. Alors, vous savez, de chaque côté de la porte, il y a des strapontins.
Oui.
Alors moi, j'étais assis sur l'un et il y avait un vieux monsieur qui était assis en face. Il me faisait face. Et il me fixait et il me regardait. Il me disait, qu'est-ce qu'il me veut, genre, ce vieux bouc, à me regarder comme ça. Et tout d'un coup, il a accroché mes yeux et puis il a baissé la tête comme ça. J'ai voulu voir ce qui l'intéressait tellement sur mon manteau. Et j'ai vu que sur mon manteau beige se défilait en fil jaune le contour de l'étoile. Alors je me rappelle, j'ai mis ma main gauche sur mon épaule droite et j'ai commencé à tirer les fils. le monsieur est descendu à la prochaine station, jamais su qui il était. Et alors, donc le lendemain, Madame Dumas m'a emmené chez des parents à elle, en Normandie, au Bois Mouchet. Je suis restée là à peu près 9 mois, j'allais à l'école, tout. Et puis, comme maman était à Chanlo, elle a voulu me revoir, elle est venue au Bois Mouchet me chercher. Et nous sommes partis arriver à Chanlo.
Vous avez dû changer d'identité pendant la guerre. Vous aviez un autre prénom, le prénom Marie. Qu'est-ce que ça vous a fait de porter un autre prénom?
Pour moi, ça ne me dérangeait pas. Alors, monsieur le curé a dit à maman, il dit, écoutez, madame Bella, le nom de famille qui est Speiser, c'est polonais, et c'est très difficile. Il y a 8 lettres et seulement 2 voyelles. Alors, c'est tout à fait étranger. Alors, il a dit à maman, bon, alors, je crois que monsieur le maire était venu avec. Et il a dit, bon, maintenant, il faut changer de nom. Alors, le prénom de maman, Bella, est devenu notre patronne, notre nom de famille. Et maman lui a donné un autre prénom, Isabelle. Bon, mon frère s'appelait Joseph, là, il n'y avait pas de problème, Joseph Bella. Et moi, monsieur le curé a dit, Muguette n'est pas un nom de sainte. Et comme j'ai pas de petite Marie au catéchisme, vous allez vous appeler Marie. Alors, c'était Marie Bella. Dans le livre, je crois quelque part, je voulais que le titre soit « On m'appelait Marie ». Mais la Fondation a trouvé que c'était mieux, que c'était plus accrochant. Et j'ai eu du courage.
Votre mère semble avoir une grande importance dans votre vie. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus d'elle?
De qui?
De votre maman.
Oh, maman, tout ce que j'ai écrit, c'est là-dedans. Maman était quelqu'un de courageux, quelqu'un de... Attends, j'ai même un petit poème que j'avais fait. Ma maman est une toute petite dame, généreuse, fière, décidée. Ma maman est une toute petite dame, grande par l'intelligence et la bonté. Ma maman est une toute petite dame, grande par l'intelligence et la bonté. Le Seigneur n'a fait qu'un seul exemplaire et c'est à moi qu'il l'a donné.
C'est très beau, c'est vraiment très beau.
Et ça, c'est maman. Maman était toujours là, la plus courageuse. Vous savez, quand nous étions encore à Paris, il y avait des alertes. Et que j'étais avec ma grand-mère, j'avais très peur. Avec ma tante, un peu moins peur. Mais quand j'étais avec maman, j'avais plus peur du tout. Elle avait cette force.
Et à Chanlo, est-ce que vous avez vu un peu la guerre? Enfin, vu, c'est pas le bon terme, mais il n'y avait pas de bombardement à Chanlo?
Non, pas de bombardement. J'ai vu quand les Allemands sont rentrés, que Chanlo est bâti sur une colline. Alors du côté de Paris, c'est le haut de Chanlo. Et tout d'un coup, on était à la maison, à Chanlo, et on a entendu un bourdonnement, un ronflement. Alors, j'étais à la fenêtre pour voir ce que c'était. Et puis, c'était les Allemands qui entraient. Alors, le premier, c'était un char, un tank, dans lequel se tenait debout jusqu'à la ceinture un homme habillé en noir, et qui, son fusil mitrailleur, et qui le promenait d'un côté et de l'autre. Alors, gamine, j'ai commencé à crier « Maman, les Boches, la croix d'Hitler !» Maman a vite fermé les volets. On regardait par en haut. Ils sont passés pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et ils se sont installés à 3 kilomètres de Chanlo, ça s'appelle Avrol, un petit... ils appelaient ça pompeusement un château. Et ensuite, ils sont venus naturellement à Chanlo parce qu'il y avait les gens étaient partis en exode. Il restait que maman, une autre dame aussi, une parisienne, et puis une ou deux fermières, et les vaches étaient dans les champs. Alors l'officier, il a commencé à parler en allemand, et il a dit quelque chose que personne ne comprenait. Alors plus, moins on comprenait, plus il s'énervait. Et quelqu'un s'est rappelé que maman parlait l'allemand, c'est-à-dire le yiddish, mais avec un accent allemand et tout ça. Alors maman est venue, il était bien content d'avoir quelqu'un qui pouvait le traduire, et il a dit aux dames qu'il a traduit, donc maman a traduit, pour dire que les vaches devaient rentrer dans les écuries maintenant. Seulement, les vaches, elles ne rentrent que dans leur propre écurie, vous voulez l'emmener dans l'écurie d'un autre, il n'ira pas. Alors il y avait toutes les vaches couraient de tous les côtés, finalement on a réussi à les faire rentrer chez eux. Et puis, il fallait les traire. Elles avaient le pied gonflé, les pauvres bêtes, elles meuglaient. Alors, Donc, les vaches, quand on les traite, on les traite du côté gauche. Mais ces dames-là ne savaient pas, ni maman, ni les autres. Alors, elles ont commencé à traire du côté droit. La vache n'était pas tellement contente. Puis tout d'un coup, elle a foutu un bon coup de pied au seau. Et puis tout le lait, d'abord c'était un lait inutilisable, mais quand même, ces dames, je crois que c'est arrivé à tout un moment aussi. Je n'étais pas contente, elle avait été, c'est la vache qui avait eu le dessus. Mais finalement, donc, tout est rentré dans l'ordre, et puis l'officier est parti.
Et comment vous avez vécu le fait de porter l'étoile? Au début de la guerre, vous avez dit au début de l'entretien que vous portiez l'étoile sur votre manteau. Comment vous l'avez ressenti?
D'abord, j'avais honte. Parce que je n'étais pas comme les autres. Même à l'école, il y avait une autre fille juive, et la maîtresse passait derrière nous et nous assémait un coup sur la nuque. Vous savez, comme quand on tue un lapin. Et il n'y a rien qu'à elle et à moi qu'elle faisait ça. Alors je savais que c'était différente des autres. Et puis il y avait une petite anecdote. J'avais une voisine, Marguerite Briand, qui était chrétienne naturellement, et elle est allée, elle faisait sa première communion ce jour-là. Alors, à l'église, moi, ce que j'ai fait, je suis allée la voir aux sorties de l'église. J'attendais qu'elle sorte. Et d'abord, j'ai mis mes bras comme ça, pour cacher l'étoile. Puis après, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que je la cacherais? C'est pas de ma faute. Et puis, c'est là. Et j'en suis fière. Voilà ce que je m'étais dit à l'époque. Et Marguerite est sortie avec sa robe blanche et tout. Et elle a couru m'embrasser. Il y avait des gens, il y avait d'autres amis qui ne voulaient pas frayer avec moi parce que je portais l'étoile. Mais elle, formidable.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin de la guerre, au moment où c'était terminé? Vous avez su que c'est terminé et quel a été votre sentiment?
Oui, ça a été terminé pour nous quand les Américains sont rentrés à Chanlot. Ça a été un soulagement. Plus besoin de se cacher.
Vous avez pu reprendre votre identité?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Non, quand on est retourné à Paris. C'est-à-dire après, oui, on a repris notre identité, mais les Allemands passaient dans les camions, ils nous lançaient des boîtes de conserve, pour les enfants, des bonbons, des chocolats, des chewing-gums. Et puis, ils nous jetaient des choses qu'on n'avait pas vues depuis 5 ans. Ils étaient charmants. Et justement, nous, on... deux de mes amis et moi, on marchait sur la route et il y a un camion américain qui s'est arrêté, une Jeep. Et il y a un monsieur qui est sorti et puis bon, il nous a donné des bonbons et tout. Il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que vous êtes juive ?» Alors, la peur de l'Allemand était toujours là. Je dis « oh non, je ne suis pas juive. » S'il m'avait parlé en yiddish, je lui aurais répondu. Mais, alors, il n'a pas insisté. Sans doute qu'il était juif lui-même, c'est pour ça qu'il me l'a demandé.
Et j'aimerais savoir, où vous êtes maintenant, vous êtes établi au Canada, pourquoi votre famille a décidé de partir au Canada en 1947? Pourquoi vous n'avez pas décidé de rester en France après la guerre? Parce que la guerre était finie, donc vous aviez plus ou moins de risques qu'il vous les arrive quelque chose. Donc pourquoi avoir décidé de partir?
Pour nous, la terre de France était imbibée de sang, d'abord. Ensuite, maman avait un bon manteau de laine qui appartenait à sa maman, à elle, ma grand-mère. Et puis, ma grand-mère paternelle était toujours avec nous. Alors, maman a écrit à ma grand-mère paternelle, demander si elle voulait prendre si elle avait besoin d'un manteau. Nous, on n'en avait pas besoin. Alors, ma grand-mère est venue, elle a pris le manteau, elle l'a amené chez elle. La mère à maman était toute petite, tandis que la mère à papa était grande. Alors, pour que le manteau lui aille, elle a défait les ourlets. Et dans les ourlets, elle a trouvé de l'argent américain. Elle a trouvé deux lettres de ses frères, un à Toronto et un à Montréal. Alors, elle leur a écrit. Notre oncle de Toronto lui disait la prière des morts pour nous. Pendant 5 ans, sans nouvelles, et avoir su ce qui s'était passé. Mais alors, tout de suite, ils ont fait des démarches pour que nous puissions venir. Et une tante, maman avait une tante à Brantford, une tante fortunée, qui nous a payé le voyage en avion. C'est pour ça qu'on a décidé de venir, parce qu'on avait de la famille ici.
Et est-ce que vous êtes revenu à Chanlot depuis la guerre?
Oui, je crois 14 ans après. Je suis arrivée en 47 et c'était en 73 la première fois. Et ça est, mon Dieu, ma jeunesse est revenue. Et puis il y avait beaucoup, en 73, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient vivants. Alors j'ai pu aller dans toutes les fermes et puis les voir et se rappeler des souvenirs. Monsieur le curé n'était plus là naturellement, mais là, quand même, il y avait l'autre curé qui était arrivé. Alors on est allé lui dire bonjour. Et puis ça a été une joie. Et chaque fois que je vais en France, je retourne à Chalon.
Et j'ai lu dans vos mémoires que les deux familles qui vous ont hébergé à Chalon ont reçu la médaille des Justes.
Ah oui.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ?
Eh bien, donc le représentant de Yad Vashem, qui est le musée de l'Holocauste à Jérusalem, et quelqu'un du consulat France-israélien à Paris, ils sont venus à Chalon pour remettre les certificats et les diplômes, les certificats et les médailles. Et alors, tout le monde s'est réuni dans la salle des fêtes à Chalon. Et les maîtresses ont arrêté l'école pour que les enfants puissent venir aussi. Et voilà, alors ils ont... c'est eux qui ont parlé. Moi, j'ai parlé aussi, j'ai parlé de mon enfance, comment nous sommes arrivés à Chalon. Presque la même chose, presque les mêmes questions que vous me posez. Et alors, ils ont... D'abord, Yad Vashem a dit qu'on ne donnait la médaille des Justes qu'à une seule personne. Mais il y avait deux familles à Chalon. Alors finalement, après, je pense, ça a pris une dizaine d'années jusqu'à ce qu'ils consentent à... Oui, alors, bon, alors, j'ai parlé, et puis eux aussi. Et je crois que c'est à la fin de mon livre.
Oui.
Et ensuite, ben, comme ça, je les ai invités tous à déjeuner, et puis c'était très agréable, c'était bien. Un devoir de mémoire.
Très beau le devoir de mémoire. Je pense que c'est très important et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à vous interviewer aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important pour les auditeurs d'avoir des entretiens, d'écouter des gens comme vous.
Moi, j'aimais beaucoup le cinéma, maman aussi. Alors, nous sommes allés au cinéma.
Oui.
Et toujours avant le film, à l'époque, on montrait les actualités. Alors, il y avait des choses dont ils parlaient. Tout d'un coup, ils ont montré les camps de concentration. Ils montraient les squelettes, les vivants, morts et tout ça. Et tout ce que je me rappelle, après avoir vu les actualités, j'étais dehors et maman me giflait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Maman dit que je hurlais tellement fort. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à hurler. Il a fallu qu'on me sorte du cinéma, mais je me rappelle de rien.
Écoutez, Muguette, je vous remercie beaucoup.
Ça fait grand plaisir.
Et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci,
à vous. Au revoir.
À vous aussi. Au revoir.